VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 29 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Nigeria, au moins 7 morts dans l'attaque d'un train par des hommes armés entre Kaduna et Abuja. L'armée congolaise accuse les forces de défense rwandaises de soutenir les rebelles du M23, Kigali dément catégoriquement. Visite au Maroc du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au lendemain de sa rencontre avec des alliés arabes en Israël. Avancée des négociations entre Kiev et Moscou, l'Ukraine se dit prête à accepter la neutralité et la Russie n'exclut pas de réduire son activité militaire. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Nigeria, attaque meurtrière contre un train de voyageurs en provenance d'Abuja qui se rendait à Kaduna dans le nord-ouest du pays. Des hommes armés ont placé des explosifs sur la voie, faisant au moins 7 morts et 22 blessés. Le point avec notre correspondant Gilbert Tamba.
Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat contre le train qui avait près de 1000 passagers à bord. Ce matin, les autorités ont affirmé que les passagers qui ont été blessés ou sont décédés ont été transférés dans les hôpitaux. Le responsable de la sécurité de l'État de Kaduna, Samuel Arouan, n'a pas donné un bilan exact ni indiqué si des passagers ont été enlevés, mais il précise qu'une opération de sauvetage est en cours. La Société nationale des chemins de fer a annoncé mardi qu'elle suspend ses opérations sur cet axe jusqu'à nouvel ordre. Le train a été attaqué vers 21h locale hier, près de la gare de Rijana sur la ligne entre Abuja, la capitale, et Kaduna, où des hommes armés ont déjà tenté d'attaquer samedi l'aéroport de cette grande ville du nord-ouest du Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
L'armée congolaise accuse les forces de défense rwandaises de soutenir le M23, ce que le Rwanda dément. Ces accusations surviennent après une attaque des rebelles contre les positions des FARDC dans le Nord Kivu. Le point avec Nani Talani.
Il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie ou de complicité entre le M23 et le gouvernement du Rwanda, a déclaré Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais. Le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, a mené une attaque contre les positions des forces armées congolaises à Tianzu et Runyoni dans le territoire de Rutshuru, a affirmé hier le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il ajoute que 2 militaires rwandais ont été arrêtés et montrés par la télévision congolaise. Le Rwanda réfute catégoriquement ce qu'il qualifie d'accusation sans fondement. L'armée rwandaise n'est en aucune façon impliquée en RDC, a rétorqué ce mardi François Abitegeko, gouverneur de la province rwandaise de l'Ouest. Selon lui, les deux hommes ont déjà été évoqués par Kinshasa lors d'une réunion le 25 février à Kigali et les présenter comme des soldats rwandais relève d'une tentative de manipuler l'opinion.
Par ailleurs, dans un communiqué, l'armée congolaise accuse le M23 d'avoir abattu aujourd'hui un hélicoptère de reconnaissance de la MONUSCO avec 8 personnes à son bord. Les rebelles accusent de leur côté les FARDC d'avoir abattu cet appareil. Un porte-parole de l'ONU a confirmé à VOA Afrique la mort des 8 personnes qui sont 6 membres d'équipage pakistanais, un militaire russe et un serbe. Ils étaient en mission dans la région de Tianzu au sud-est de Rutshuru, au Nord Kivu. Des recherches sont en cours pour connaître les causes du crash. Le Pakistan a confirmé ces informations. La République démocratique du Congo a officiellement intégré la communauté des États d'Afrique de l'Est, rejoignant le Burundi, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Soudan du Sud. Le président en exercice de l'EAC, le chef de l'État kényan, Uhuru Kenyatta, a officialisé son adhésion lors d'un sommet en ligne des dirigeants des États membres. Cette organisation régionale, qui a établi un marché commun en 2010, vise à faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre États membres. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite au Maroc ce mardi pour consolider un partenariat stratégique régional après avoir rencontré des alliés arabes en Israël. Le point avec Jacques Aristide.
Le patron de la diplomatie américaine a été reçu par son homologue marocain, Nasser Bourita, présent hier à la réunion inédite dans le désert du Negev, avec trois autres ministres arabes venus en Israël. Également à l'agenda au Maroc, des entrevues avec le premier ministre Aziz Kanouche et avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le dirigeant de facto des Émirats Arabes Unis, dont les relations avec son traditionnel allié américain ont été mises à l'épreuve après une série de désaccords. Le secrétaire d'État américain achèvera sa tournée régionale demain par une étape en Algérie, rivale du Maroc et alliée de la Russie. Les entretiens d'Anthony Blinken portent sur la sécurité bilatérale et régionale, la lutte antiterroriste au Sahel, les droits humains, mais aussi l'impact économique du conflit en Ukraine, comme la flambée des prix des matières premières et le risque de pénurie de blé. Nous savons que cette calamité est vivement ressentie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où la plupart des pays importent au moins la moitié de leur blé, a indiqué le département d'État américain.
En Tunisie, le président Kais Saied a dénoncé les réunions du bureau du Parlement, les qualifiant d'illégales à l'ouverture hier du Conseil de la Sécurité nationale. M. Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet en limogeant le Premier ministre et en suspendant le Parlement. Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, présidé par le chef du parti Ennahda, a organisé une réunion en ligne et a décidé la tenue d'une séance plénière mercredi pour examiner l'annulation des mesures exceptionnelle décidée par le président Saied. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré s'accusent mutuellement de bloquer les convois d'aide humanitaire censés accéder à cette région du nord du pays à la faveur d'une récente trêve. Le gouvernement a exigé le retrait du TPLF des zones qu'il occupe dans les régions de l'Amara et de l'Afar voisines du Tigré et les rebelles ont réclamé l'arrivée de l'aide humanitaire. Dans un communiqué publié ce mardi, le gouvernement affirme que 43 camions d'aide alimentaire du programme alimentaire mondial n'ont pas pu être transportés au Tigré en raison de la fermeture de la route par les combattants tigréens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a promis de réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tchernigov en Ukraine. Après des pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul, le point avec Eric Manirakiza.
Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a fait état de discussions substantielles et dit que les propositions claires de l'Ukraine en vue d'un accord allaient être étudiées très prochainement et soumises au président Vladimir Poutine. Kiev s'engagerait à une neutralité et à renoncer à intégrer l'OTAN sous réserve d'avoir des garanties sur sa sécurité. L'Ukraine accepterait aussi de ne pas accueillir de bases militaires étrangères et d'adopter un statut non nucléaire. Kiev propose que ces garanties ne couvrent pas dans l'immédiat la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ni les territoires sous contrôle des séparatistes pro-russes. C'est différent devront faire l'objet de négociations séparées. Selon le négociateur russe, Kiev veut que Moscou s'engage à ne pas s'opposer à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Monsieur Medinsky a qualifié l'approche ukrainienne de constructive et indiqué que la Russie lui donnera une réponse.
Et après les déclarations des négociateurs, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec les dirigeants français, britanniques, allemands et italiens. Au moins 7 personnes ont été tuées ce mardi et 22 autres blessées, selon le président ukrainien, lors d'une frappe russe ayant partiellement détruit le bâtiment de l'administration régionale de Mykolaïv, près d'Odessa. Les forces russes ont bombardé un aérodrome militaire dans l'ouest du pays, détruisant tous les stocks de carburant, selon un officiel ukrainien. Le nombre de réfugiés ayant fui l'Ukraine se rapproche des 4 millions, indique l'ONU, estimant à plus de 6 millions millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. Avec 3 900 000 réfugiés, principalement des femmes et des enfants, l'Europe n'a pas connu un tel afflux de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et le Danemark a annoncé aujourd'hui mettre un bataillon de 800 soldats à la disposition de l'OTAN pour un possible renfort dans les pays baltes face à la menace russe. Le pays nordique a déjà déployé 200 troupes et des avions de combat en Estonie et en Lituanie et dépêché une frégate dans l'est de la mer Baltique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
La République démocratique du Congo a officiellement intégré ce mardi la Communauté des États d'Afrique de l'Est, organisation régionale dotée d'un marché unique permettant la libre circulation des biens et des personnes. L'EAC, dont le siège se trouve à Arusha en Tanzanie, compte désormais 7 membres, dont le Burundi, le Rwanda et le Kenya. C'est désormais la plus grande zone de libre-échange continentale avec un marché potentiel de 300 millions de personnes. La Côte d'Ivoire a signé hier un partenariat avec le groupe marocain OCPSA en vue de doper la compétitivité du secteur agricole. Selon l'agence APA, cet accord vise la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne avec une augmentation de la valeur ajoutée et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Le taux de chômage en Afrique du Sud a encore augmenté au dernier trimestre 2021 pour atteindre un nouveau record à 35,3%. La première puissance industrielle du continent compte désormais 7,9 millions de chômeurs sur une population de près de 60 millions. Les jeunes sont particulièrement touchés, plus de 66% des 15-24 ans étant concernés. L'économie du pays a été durement frappée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaîtra ce soir les 5 représentants africains pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. À l'issue des matchs retour des barrages, ayant perdu 1-0 son match aller au Caire, face à l'Égypte, les Lions sénégalais de la Teranga sont présentement aux prises avec les pharaons d'Égypte. En cours également le choc anglophone et ouest africain entre le Nigeria et le Ghana. À l'aller à Accra, Black Stars et Super Eagles se sont séparés sur le score de 0-0. Les 3 autres représentants africains au Mondial seront connus à l'issue des 3 matchs prévus à 19h30, temps universel. Après sa défaite à Douala 1-0 à l'aller face à l'Algérie, la première à domicile depuis 1998, le Cameroun du nouveau sélectionneur, Rigobert Song, cherche la qualification à Blida en Algérie. Idem pour le Mali, en déplacement à Tunis après son échec 1-0 à Bamako contre la Tunisie. À Casablanca au Maroc, tout reste jouable entre Lion de l'Atlas et Léopard de la RDC, accroché au match aller à Kinshasa 1-1. Dans la zone Europe, forte de son coup d'éclat contre l'Italie battue 1-0, l'équipe nationale de la Macédoine du Nord a fort à faire face au Portugal de Cristiano Ronaldo en finale des barrages ce soir. Dans l'autre finale de ces barrages zone Europe, la Pologne de Robert Lewandowski fait face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic. À suivre également ce soir des matchs amicaux de certaines sélections africaines, le Burundi a battu le Libéria 2-1, la Sierra Leone a disposé du Congo 2-1 également. En cours, Tanzanie-Soudan ou encore Togo-Bénin. Toujours ce soir, l'Angleterre fait face à la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso joue contre la Belgique et l'Afrique du Sud défie la France à Lille. Ici, en NBA, la lutte à l'approche des playoffs est toujours serrée à l'Est, portée par les 40 points et 13 rebonds du Camerounais Pascal Siakam. Les Raptors ont éjecté les Celtics de la première place en mettant fin à la série de 6 victoires d'affilée de Boston grâce à un succès 115-112 après prolongation. Toronto reste à la 6e place à l'Est, la dernière qui offre une qualification directe pour les playoffs. Chicago a été défait 109-104 à New York. Cleveland a battu le Magic d'Orlando 107-111. Facile vainqueur de Sacramento 123-100 en Floride. Le Heat de Miami a repris la première place à l'Est. À l'ouest, Golden State a encaissé une troisième défaite d'affilée, corrigée 123-95 par Memphis. A noter aussi la quatrième victoire consécutive des Spurs à Houston, 123-120. Denver est allé s'imposer 113-109 à Charlotte. Atlanta l'a emporté 132-123 chez les Pacers. Et le Thunder a vaincu après prolongation Portland 134-131.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'armée de la République démocratique du Congo accuse les forces de défense rwandaises de soutenir le M23, une rébellion active dans l'est du pays, ce qu'ont démenti aujourd'hui les autorités de Kigali. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Bruxelles, Colette Brackman, journaliste et spécialiste de la région des Grands Lacs.
L'armée congolaise a montré deux prisonniers qu'elle avait saisis dans les rangs des assaillants en disant qu'elle les avait identifiés comme étant des soldats rwandais en donnant leur numéro de bataillon, etc. Mais est-ce que c'est une preuve suffisante? Est-ce que c'est pas une manipulation? En fait, on n'en sait rien. Kigali a démenti. Ce qui est sûr, c'est que les rebelles du M23 étaient basés en Ouganda. Il y a un mécontentement parmi eux depuis longtemps parce qu'ils estiment que les accords d'Addis Abeba n'ont pas été respectés. Et donc, il y a un malaise latent. Et le président Kagame aussi s'était exprimé il y a quelques jours en disant qu'il n'était pas satisfait de la situation parce que les FDLR continuaient à opérer au Kivu et qu'il estimait que c'était une menace pour son pays. Donc, il avait exprimé son inquiétude et éventuellement sa volonté de réagir. Mais pour le reste, on ne sait pas. La situation vraiment est très floue. Le président Kagame avait rencontré son homologue, le président Tshisekedi, le 24 mars en Jordanie, justement pour essayer de tirer au clair ces relations et de rétablir des relations qui jusque-là étaient très bonnes entre les deux pays.
Effectivement, Kigali et Kinshasa entretiennent de très bonnes relations. Des accusations du genre, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres canaux pour régler ce conflit?
Oui, les deux présidents se parlent. La preuve, ils se sont rencontrés la semaine dernière. Le téléphone existe entre les deux capitales. Ils peuvent se parler. C'est pour ça que c'est assez surprenant de voir que l'armée, une section locale, si vous voulez, de l'armée congolaise, exhibe deux prisonniers qui n'avaient pas non plus l'allure très militaire. Enfin, on connaît un peu l'allure des militaires rwandais. C'est un peu étonnant, quoi. Il n'a pas l'air d'être des militaires du rang de l'armée rwandaise. Donc, il faudra sûrement un peu éclaircir cette histoire. Ça peut aussi être une manipulation. Sur le terrain, on est loin de la capitale. Donc, la capitale ne sait pas tout ce qui se passe. Et il est certain quand même que les bonnes relations entre les présidents Kagame et Tshisekedi ne plaisent pas à tout le monde, ne plaisent pas probablement pas à l'Ouganda qui pourtant a fait intervenir son armée au nord Kivu, ne plaisent peut-être pas à d'autres milieux politiques au Congo proprement dit. Donc c'est une histoire qui suscite quand même beaucoup de points d'interrogation.
Vous pensez que les bonnes relations entre les deux chefs d'État vont peut-être intervenir pour calmer la situation?
Il faut que la situation se clarifie, quoi. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est quand même que des civils sont en fuite, qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu des localités qui ont été prises par ces groupes rebelles. On ne sait pas non plus très bien pourquoi le M23 a repris les hostilités. On n'est qu'au début, on n'a pas encore toutes les clés de compréhension.
C'était une analyse de la journaliste Colette Brackman, spécialiste de la région des Grands Lacs. Alors que les Togolais attendent des mesures pour atténuer les effets de la vie chère, c'est le contraire qui s'est produit. Le gouvernement a décidé d'augmenter les prix des produits pétroliers qui ont subi une hausse allant de 20% pour le super sans-plomb à 37% pour le pétrole lampant. Colère, désolation et parfois résignation sont les attitudes affichées par la population. Un reportage de notre correspondant à Lomé, Kossi Wusu.
La journée a mal commencé pour Yao, conducteur de taxi-moto, lorsqu'il découvre les nouveaux prix affichés à la station d'essence située au grand carrefour GTA dans la capitale togolaise. Il n'en croit pas ses yeux.
Nos dirigeants ne pensent pas à nous, sinon ils n'allaient pas procéder à cette augmentation. La situation est déjà critique pour tout le monde et à plus forte raison, nous les conducteurs de taxi moto, on n'en peut plus. On pensait qu'ils allaient à moins de mort.
L'essence sans plomb passe de 505 francs CFA à 595 francs. Le gasoil a subi une augmentation de 80 francs CFA. La plus forte hausse concerne le pétrole lampant qui est vendu désormais à 550 francs CFA contre 400 francs auparavant. Francis Mawena, cadre dans une société de la place.
C'est là où je n'ai pas compris. Parce que le pétrole lampant, c'est le pétrole le plus consommé. Vous allez dans les fermes, dans les villages, nos mamans, nos vieillards au village, tout le monde, c'est le pétrole lampant. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on a laissé le gaz butane intact et que c'est le pétrole lampant qu'on a pensé plutôt augmenter le prix. Moi, je n'ai pas compris.
Quelques heures après l'annonce de ces hausses, le gouvernement passe au service après-vente et tente d'expliquer sa décision. Plaidant coupable, le ministre du Commerce justifie cette hausse des prix par la conjoncture internationale. Kodjo Adeje.
Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. S'agissant du carburant, en 2019, le brut était de 18 dollars le baril. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes passés de 18 dollars à 110, voire 120 dollars le baril. Donc une augmentation exponentielle qui a suffisamment fait saigner le budget de l'État, il faudrait l'avouer. Si les prix sont maintenus à ce niveau depuis, je crois, juillet 2021, c'est parce qu'il y a eu de gros efforts fournis par le gouvernement. Et si nous avions la magie de maintenir les prix à ce niveau, on l'aurait fait.
Le ministre Kodjo Adeje a annoncé que les nouveaux prix sont, eux aussi, subventionnés. Autrement, le super sans plomb se vendrait à plus de 700 francs CFA et le pétrole lampant à 800 francs CFA le litre. Kossi Wusu Lomé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, les étudiants ont lancé des manifestations à Abuja lundi contre la fermeture continue des universités et des collèges en raison d'une grève des enseignants. Ils menacent d'arrêter les activités économiques à travers le pays si les écoles ne rouvrent pas. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Yakuba Ouedraogo.
Des centaines d'étudiants ont manifesté lundi à Abuja, certains portant leurs sacs d'école, d'autres des marmites ou des bouteilles de gaz pendant leur défilé. Les étudiants disent protester pendant 3 jours pour obliger les autorités et les enseignants à résoudre leurs différends. La dernière grève des enseignants a commencé en février. Sandey Adebayo est le président de l'Association nationale des étudiants.
Notre gouvernement doit être réactif, notre gouvernement doit être engagé. Il doit faire preuve de sérieux dans toute discussion qu'il a avec l'Association des étudiants afin que nous puissions retourner en classe.
Dans le système éducatif nigérien, les professeurs recourent souvent à des actions revendicatives pour régler des problèmes urgents avec le gouvernement. Les manifestants accusent les autorités nigérianes d'avoir provoqué la grève. Mais ils exhortent aussi les enseignants à reconsidérer leur position vis-à-vis des propositions des autorités lors de leur prochaine réunion pour garantir la réouverture des écoles. Jusqu'à présent, les autorités nigérianes n'ont pas encore répondu aux protestations en cours. Mais début mars, le ministre de l'Éducation est sorti d'un dialogue sans résultat avec les dirigeants de l'Association nationale des étudiants nigériens. En réponse à la manifestation, le président du syndicat du personnel académique des universités, Emmanuel Osedeke, a déclaré que le syndicat ne céderait pas aux pressions pour annuler la grève.
Nous nous battons pour ce qui profitera à tous les étudiants nigériens et au Nigeria en tant que pays, que les étudiants puissent venir du monde entier et que nous ayons des professeurs de qualité. Cela affecte tout le monde et si cela réussit, tout le monde en bénéficiera, y compris les étudiants.
Le syndicat du personnel académique des universités souhaite que les autorités honorent un accord prévoyant de dépenser environ 500 millions de dollars par an pendant 5 ans pour revitaliser le secteur de l'éducation. En vertu de cet accord, les professeurs vont bénéficier d'une augmentation de salaire et les écoles pourront améliorer les infrastructures et les conditions d'apprentissage. Mais les autorités n'ont payé qu'environ 230 millions de dollars, un peu moins que la moitié de la somme réclamée. L'étudiante en chimie, Jimo Soudiat, dit avoir passé 2 ans de plus que la durée prévue de son cursus à cause des grèves récurrentes.
Cela m'a beaucoup affecté. Passer près de 6 ans à l'école n'est pas facile pour moi. Et cela affecte également mes parents. Parce que rester sur le campus, rentrer à la maison et revenir est difficile.
Lydia Daniel est étudiante en communication.
Nous ne voulons plus vivre les grèves de l'association des étudiants. Depuis que nous sommes entrés à l'école, on va d'une grève à une autre.
Il y a 2 ans, la grève du syndicat a duré 9 mois, la plus longue de l'histoire récente. À moins qu'un accord ne soit conclu, des millions d'étudiants nigériens pourraient être bloqués à l'école pendant de nombreux mois à venir.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la guerre en Ukraine. Plus d'un mois après l'invasion russe, les combats se poursuivent. Les pourparlers aussi, sur fond d'une vive polémique survenue lors de la récente tournée en Pologne du président américain Joe Biden. Les effets du conflit se font déjà sentir. L'Afrique, jugée particulièrement vulnérable aux séquelles de cette guerre, appelle à l'aide. Une issue diplomatique est-elle toujours envisageable? Comment les pays africains peuvent-ils se protéger des répercussions de la crise russo-ukrainienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
En Tunisie, le président Kais Saied dénonce les réunions du bureau du Parlement qu'il qualifie d'illégales et de tentatives pour un coup d'État. Le Parlement a annoncé la tenue d'une séance plénière mercredi, défiant le président qui a suspendu la Chambre en juillet, s'arrogeant ainsi les pleins pouvoirs. M. Saied a promis de combattre ceux qui veulent le désordre dans l'État et ses institutions. Pour une analyse de cette crise politique, Nani Talani a joint Rania Barak, professeur de sciences politiques.
Or, la réunion qui a eu lieu hier entre les 27 députés, c'était aussi pour se mettre d'accord pour la plénière qui aura lieu normalement demain, mercredi. C'est dans le but de mettre fin aux mesures justement exceptionnelles décidées par Kais Saied depuis le 25 juillet dernier. À partir de là, le président de la République considère que sa décision de geler le Parlement fait foi et qu'elle n'est pas du tout révisable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen, aucune possibilité de faire marche arrière. Partant de là, il ne tolère pas ces réunions, d'autant plus que le Parlement, comme je viens de le dire, est gelé depuis le 25 juillet et qu'il n'y a pas eu de telle tentative de le réactiver durant les 8 mois passés. Donc, il considère que ce genre de réunion, justement, est illégal et c'est pour cela qu'il a convoqué hier, d'ailleurs, un Conseil de sécurité nationale.
Qu'est-ce qui peut pousser un Parlement gelé à défier le président en organisant des réunions?
C'est d'abord la recherche d'une reconnaissance au niveau international et aussi le fait de rappeler qu'il existe une autre légitimité au niveau national. Je pense qu'il s'agit surtout d'une manœuvre politique de provocation visant le président en premier lieu et je crains que ce dernier s'est un peu laissé prendre au piège. Il ne faut pas oublier que Kais Saied est aussi un peu inexpérimenté en matière politique. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience ou de culture politique et Nahda et ses alliés essayent justement de le parer de l'habit d'un dictateur aveugle aux yeux du monde et encore une fois le président se laisse berner. Donc il y a c'est vrai une intention de diabolisation du président qui est voulue par ses opposants et il y a aussi n'oublions pas que la Nahda et ses alliés profitent d'une légère stagnation il faut le dire, de la popularité du président en ce moment.
Qu'est-ce qui explique cela?
La population commence doucement à s'impatienter et pour cause. parce que depuis le 25 juillet dernier, oui, on a eu plein de déclarations, plein de bonnes intentions, mais dont les faits, il n'y a rien de concret. D'abord, c'est la situation économique qui s'empire de plus en plus. On ne sait rien sur la révision, le changement de la Constitution. On ne sait rien du rôle ou de la place que vont prendre les instances indépendantes, constitutionnelles ou autres, que ce soit les partis, les organisations nationales, les syndicats, les corporations, les associations. Allons-nous, pour revenir sur le dossier économique, nous engager sérieusement dans le sens des réformes convenues ou voulues par le FMI et le groupe de la Banque mondiale? Voilà, donc il y a tellement de questions, et même la lutte contre la corruption qui n'arrête pas de dire et de redire, on ne connaît pas vraiment la méthode, sa vision, donc ça reste quand même un peu flou tout ça.
Kais Saied promet de combattre ceux qui veulent le désordre dans son pays. Jusqu'où peut-il aller ?
Pour aller jusqu'au bout, il faut qu'il prouve qu'il y a des gens réellement qui veulent le combattre ou qui veulent le désordre, ce qu'il n'a pas, toujours pas prouvé, je suis désolée. Il n'y a rien qui est prouvé jusque-là.
Rania Barak est professeure de sciences politiques en Tunisie. C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaactif.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.